Les livres, sélection de Radio Silence. Ce lundi 8 novembre de l'an de grâce 2010, ici Périnée. À tous, présents et à venir, qui voulaient bien nous écouter, salut. Apparu récemment, après bien d'autres, une biographie de Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, une des sœurs de Louis XVI, intitulée « Le sacrifice du soir ». Par Jean de Vigry aux éditions du Cerf. L'on peut s'étonner de ce qu'un historien de la qualité du professeur de Vigry, spécialiste réputé de l'histoire des idées, se soit ainsi intéressé à un personnage somme toute acteur secondaire de l'histoire de la Révolution dite française. En une sobre mais dense introduction, le professeur s'en explique. S'intéressant à la princesse à l'occasion du deuxième centenaire de sa mort, en 1994, de son assassinat, il fut frappé par cette personnalité hors du commun, alliant harmonieusement force de la volonté, vie intérieure intense, vivacité de la pensée et de la parole, et sérénité, sans oublier sa passion d'exhorter, passion pour laquelle il invente le terme d'exhortatrice. C'est pour connaître le secret de la jeune fille que le professeur de Vigry, et sans doute l'homme de Vigry, a eu à cœur de faire ce travail d'universitaire nourri d'une bibliographie d'une richesse exceptionnelle. La courte vie de Madame Élisabeth, 30 ans à peine, peut se répartir en trois périodes. Les années heureuses, de la naissance au prodrome de la Révolution, 1764, 1787. Les années d'assombrissement, 1787, 10 août 1792. La descente aux enfers, 1792-1794. C'est le 3 mai, le mois de la Madone, 1764, que vient au monde cette petite princesse de conte de fées, la future Madame Élisabeth. En 7 ans de malheur, du funeste traité de Paris, où nous perdons les Indes et le Canada, de la très grave révolte du Parlement de Bretagne contre, entre guillemets, le despotisme royal, sic, de la mort de la marquise de Pompadour, cette petite fille apparaît comme un véritable lys de fraîcheur au milieu d'un roncier aride. Sur le petit berceau se sont penchées, nombreuses, les fées bienfaisantes. Élisabeth est le 5e enfant survivant du dauphin Louis, mort avant son père Louis XV, et de la dauphine Marie-Joseph de Saxe. Ses trois frères régneront successivement sur la France, sous les noms de Louis XVI, Louis XVIII, Charles X, et sa sœur, Marie-Clotilde, règnera sur le royaume de Piémont-Sardaigne. Elle a 10 ans de moins que son frère aîné, le futur Louis XVI, la petite princesse Élisabeth. À noter le prénom choisi d'Élisabeth, qui est celui de sa marraine, la reine d'Espagne, Élisabeth Farnèse, qui la met sous le patronage de l'admirable Sainte Élisabeth de Hongrie. À 3 ans, l'enfant est orpheline de père et de mère, ce qui est très triste, mais la met à l'abri de la quasi-idéologie fénelonienne du dauphin, idéologie s'alimentant notamment au piétisme et à l'une de ses manifestations les plus nocives, le quiétisme de Madame Guyon. Elle sera au demeurant entourée d'un réseau d'affections tendres et vigilantes. Elle a d'ailleurs le génie de l'amitié et de l'affection, cette petite princesse. Concourt ainsi à son éducation, outre sa gouvernante, la comtesse de Marsan, et ses deux sous-gouvernantes, mesdames de Maco et d'Aumale, sa sœur Marie-Clotilde, dite Clotilde, son aînée de 4 ans et demi. Profitant d'une maladie, Clotilde lui apprendra à lire, ce qu'elle refusait de faire jusque-là, et vraisemblablement lui apprendra à écrire. Mais si Clotilde est dévouée et efficace, elle n'en est pas pour autant une professionnelle de l'apprentissage à la lecture-écriture. Madame Élisabeth gardera ainsi, jusqu'au bout, une orthographe dont le caractère fantaisiste suffisait à faire reconnaître son auteur. Parmi les amis de Marc sont à retenir également, à partir de 6 ans, sa toute nouvelle belle-sœur, la fascinante dauphine Marie-Antoinette. Elle a 9 ans de plus qu'elle, mais sa délicieuse fraîcheur d'âme lui fait pénétrer le monde de l'enfance. L'on sait que cette amitié s'épanouira en fidélité usque ad mortem. Une amie intime, l'amie de cœur, comme disent les demoiselles entre elles, sera Angélique de Mâco. Enfin, il y a aussi la duchesse de Duras, née Philippine de Noailles, rien que des grands noms de France, la compagne de chasse et chevauchée, où la princesse se révèle infatigable. C'est l'une des meilleures cavalières d'Europe. La lecture, l'enseignement religieux, les études vont canaliser les impétuosités de l'enfant, civiliser cette petite barbare, faire cesser scènes et caprices, car elle n'est pas facile à mener, la petite sœur de Louis XVI. Fait inouï pour une fille de l'époque, ses études comportent, outre littérature, histoire, etc., un cours de philosophie et un enseignement mathématique assez poussé. Madame de Marsan n'a ainsi pas suivi l'opinion de Jean-Jacques sur, citation, « l'incapacité des femmes à rechercher les vérités abstraites et spéculatives ». Tout au contraire, sa gouvernante lui donne comme maître de philosophie son amie, la marquise de La Ferté-Imbault. C'est la fille de Madame Geoffrin qui tenait salon de Lumière précédemment, mais qui n'a pas pris les idées de sa mère. Et Madame de Marsan met elle-même sur pied un cours de philosophie propre à préserver Clotilde et Élisabeth, car toutes deux sont instruites ensemble des nocivités de la philosophie des Lumières. La fréquentation de Cicéron, notamment dans le fameux De Amicitia, Sénèque le philosophe, et Plutarque, en fait un quasi-disciple des stoïciens, apte à la méditation et à la pensée logique. Elle poussera la mathématique jusqu'à pouvoir établir une table de logarithmes, particulièrement performante. À cette formation s'ajoute la véritable vertu de gaieté, de joyeuseté. Son frère Artois, le futur Charles X, peut dire d'elle « Babette est un printemps perpétuel » et aussi qu'elle est le rayon de soleil de la famille. Bombel, le brillant mari de sa chère Angélique, parle de sa charmante gaieté. Et son professeur d'italien, le merveilleux Goldoni, pas moins, l'a dit toujours vive, gaie, aimable. C'est son penchant naturel, mais elle est encouragée par l'enseignement de Madame d'Aumale, une de ses deux sous-gouvernantes, citation, « il faut rire, cela dilate les poumons et, ajoutons-nous, permet à soi-même et aux autres de vivre, à tout le moins de survivre. » Elle adore les histoires drôles et les rapporte à ses amis par écrit. Ainsi, de ce qui est rapporté sur, pour parler pudiquement, l'arrière-visage d'une dame provinciale venue à Versailles, ceci à la page 69 du livre. Sa vie intérieure est également de la meilleure qualité, une vie intérieure riche, intense. Cela sous quelles influences ? Ici, l'on suit difficilement l'auteur dans sa très grande indulgence pour la dame Maintenon, à qui il attribue l'influence primordiale sur la princesse, au travers de Saint-Cyr, où elle allait fréquemment. Il semblerait plutôt que la spiritualité d'Élisabeth procède de la Compagnie de Jésus et de son fondateur, le père de Loyola. Ceci, au travers de la direction spirituelle de l'abbé Madier, ancien jésuite, son confesseur. Celui-ci était en réalité resté intégralement fidèle à la doctrine de la Compagnie de Jésus. Élisabeth, au reste, par la rigueur et le courage, a un côté résolument militaire du style de saint Ignace. À 15 ans, Élisabeth décide de se consacrer à Dieu, mais sans entrer en religion pour autant. Ainsi refuse-t-elle de devenir abbesse de la richissime abbaye de Remiremont, pour ne s'en tenir qu'au seul lien de dépendance, de fidélité envers le roi et la reine. L'on dirait que par une prescience insigne, elle comprend combien les souverains vont avoir besoin de sa force, de son soutien à elle, le seul homme de sa famille selon Napoléon. Effectivement, dès 1787, s'enclenche inexorablement le processus révolutionnaire, l'action de l'hydre, l'ennemi implacable de la religion et de la monarchie. Dès lors que le roi accepte, sans réagir, l'échec de Calonne, le ministre réformateur, et de son plan de réforme, la dérobade de l'Assemblée des notables, le retrait de la réforme judiciaire de Lamoignon, et promet la réunion des États généraux, c'est à la destruction de l'ancien régime qu'il consent. Il consent ainsi. Les États généraux sont ouverts solennellement le 5 mai 1789. Dès le 6, le lendemain, le tiers entre en rébellion et va se proclamer en toute illégalité Assemblée nationale constituante. Il y est rapidement rejoint par les deux autres ordres, noblesse et clergé. L'acceptation de cet état de fait est, par le roi, pour le roi, l'occasion d'une nouvelle reculade. Tout ceci se passe dans la salle des menus plaisirs à Versailles, où siègent les États généraux, au sud donc de l'avenue de Paris. De l'autre côté de la dite avenue, au nord, c'est le domaine de Montreuil, le château, propriété de la princesse. D'un côté commence la Révolution, de l'autre, pour peu de semaines, continue la vie idyllique où la poésie et la paix se respirent. Dès juillet 1789, avant le 14, Madame Élisabeth a compris le caractère proprement satanique, implacable de la Révolution. Elle a reconnu l'ennemi et sa volonté implacable de destruction de l'ordre ancien des choses. Elle juge les fameuses lumières du siècle, citation, un brouillard d'une épaisseur monstrueuse. Dès avant le 14 juillet, elle dit, citation, si le roi n'a pas la sévérité nécessaire pour faire couper au moins trois têtes, tout est perdu. Que ferait-elle si elle était roi? Eh bien, elle l'écrit à son ami Angélique, « Tu crains la guerre civile. Moi, je la regarde comme nécessaire. Il fallait affronter les dangers. Nous en serions sortis vainqueurs. » Cela pourrait s'appliquer exactement à l'époque actuelle, soit dit en passant. En raison de l'incapacité de son frère à faire le roi, c'est l'expression d'Élisabeth, elle sait que les forces des ténèbres doivent rapidement l'emporter. Refusant l'exil, la sécurité, elle choisit donc de rester et mourir avec les siens, ce qui ne l'empêche pas d'agir ou d'essayer de faire agir de deux façons. D'abord en préconisant le recours à la force légitime des armes. Ainsi, le 5 octobre, à l'annonce qu'une populace hurlante et menaçante se met en marche de Paris à Versailles, elle saute à cheval, à bride abattue, pour exhorter le roi à agir en roi, en ordonnant d'arrêter militairement l'émeute. Il y avait des troupes fidèles, notamment le régiment de Flandre, et en même temps que le roi se mette à l'abri, hors de portée de la populace, lui et la famille royale. Cela sans succès. C'est une des deux seules fois où la princesse essaiera de faire pression sur son frère. L'autre fois, ce sera pour le conjurer, le supplier à genoux de refuser la constitution civile du clergé, sans davantage de réussite. S'agissant de la journée du 10 août, l'on doit penser qu'elle n'eut pas accepté, comme Louis XVI, de se réfugier honteusement à l'Assemblée nationale. Son cœur de Saint-Cyrienne, au sens moderne du mot, lui aurait fait prendre la tête des Suisses pour mourir avec ceux qui mouraient pour la couronne. Ensuite, à défaut du recours aux armes, elle a favorisé tant qu'elle a pu une évasion qui eut permis la reconquête du pouvoir. La trahison constante par Louis XVI, Télémaque XVI, de ses devoirs d'État premiers fera avorter toutes ses tentatives. Le courage de Madame Élisabeth aura tout de même un effet certain lors de la terrible journée d'émeute du 20 juin 1792, répétition de la journée décisive du 10 août suivant, qui voit le renversement du trône de ce qu'il en reste. Le 20 juin, avec son frère, la princesse fait front à une foule menaçante d'émeutiers armés de piques et coiffés du bonnet rouge. Voyant le roi en péril, Élisabeth le couvre de son corps, ordonnant aux furieux « Respectez votre roi !» que, dans un geste de protection bien féminin, elle tient par ses basques. Séparés par la horde, le frère et la sœur montent chacun sur un coffre dans l'embrasure d'une fenêtre. À un moment, la princesse descend de son coffre, fend la foule des sauvages et va embrasser et rassurer la reine dans une chambre à côté. À un moment, des furieux hurlent. « L'Autrichienne, où est-elle ? Nous voulons sa tête !» Certains la prennent pour la reine. Pour sauver sa belle-sœur, elle essaye d'interdire qu'on les détrompe. Décidément, le courage au féminin est véritablement insurpassable. Il n'empêchera malheureusement pas l'enfermement de la famille royale bientôt au temple. Pendant toute sa détention de presque 2 ans, la princesse se montrera non pas égale à elle-même, mais si possible supérieure à elle-même. D'abord en acquérant une parfaite maîtrise de ses réactions, dominant complètement ses mouvements de révolte et de colère pourtant si légitimes, par sa dignité, son charme féminin aussi, mais surtout sa bonté profonde. Elle s'attache tel ou tel des municipaux ou gens de service affectés à sa garde. Mais Hébert et autres révolutionnaires enragés, l'expression est de Robespierre, réclament sa tête. Son procès est donc décidé, et ce, malgré le dit Robespierre, dont le consentement est pour ainsi dire forcé. Ce sera un vrai procès révolutionnaire, c'est-à-dire sans preuve ni garantie. Chauveau-Lagarde, l'avocat de la reine, commis d'office la veille du procès, plaide magnifiquement, citation, que le procès ne comporte aucun élément légal de conviction. Les réponses de l'accusé prouvent, dit-il, la bonté de son cœur et l'héroïsme de ses vertus. C'est donc l'apologie de ce parfait modèle de toutes les vertus que l'on devrait faire. Le seul effet est de faire déclarer par le président du tribunal que l'avocat a corrompu la morale publique. Peu après, Chauveau-Lagarde est arrêté. Seule la chute de Robespierre le sauvera. Pendant son procès, Madame Élisabeth reste parfaitement digne, répondant notamment fièrement en déclinant son identité. Élisabeth de France, la tante de votre roi. Il s'agit de Louis XVII, le roi de Louis XVI ayant été guillotiné. Ce président du tribunal, Dumas, justifie et obtient la condamnation à mort de la princesse en raison non de faits, mais, citation, de son intériorité mauvaise, essentiellement anti-révolutionnaire. À noter cependant que, moins immonde qu'Hébert, ce Dumas dit « vous » à la princesse Élisabeth. Le 10 mai 1794, les 23 condamnés à mort, 24 avec la princesse, sont emmenés en charrette vers la guillotine. Avant de monter, pendant le trajet, puis au pied de l'échafaud, Madame Élisabeth, guillotinée en dernier, ne cesse de réconforter ses compagnons et compagnes de supplice, de les exhorter pour leur salut. Exécutée, comme il est dit, la dernière, elle garde son calme, admirable, sa sérénité, jusqu'à la consommation du sacrifice du soir. Deux événements marquent ce crime révolutionnaire. D'abord, le capitaine de la garde nationale, chargé de commander le roulement de tambour réglementaire après chaque exécution, ne peut pas le faire. Il est terrassé par l'émotion et il tombe sans connaissance et mourant. Ensuite, à la mort de la princesse, à l'instant précis de sa mort, une odeur de rose se serait répandue sur toute la terre, sur toute la place, selon de nombreux témoignages. L'auteur conclut sa conclusion en remarquant qu'il y a des régimes qui finissent dans le sauve-qui-peut et le déshonneur. C'est parfaitement vrai. La monarchie de Juillet, par exemple. La monarchie bourgeoise. Mais ce n'est pas le cas de l'ancienne monarchie. Le sublime sacrifice d'Élisabeth de France suffit à l'attester. Dans son chapitre ultime, intitulé « Post-mortem », l'auteur relève que Madame Élisabeth n'a ni monument ni tombeau. Malgré des miracles attribués à la princesse, malgré une demande adressée au pape Pie XI pour l'introduction de sa cause, celle-ci n'a toujours pas eu lieu. Une réponse d'un secrétaire du cardinal Felletin, archevêque de Paris, fait état, sic, de grandes difficultés, sans préciser davantage. Si la béatification de sa tante, Madame Louise, est déjà proclamée, et celle de sa sœur, Marie-Clotilde, très avancée, le dossier de la cause d'Élisabeth n'est même pas ouvert. Ceci peut être pour ce que sa béatification pourrait être en elle-même une condamnation de la Révolution dans son principe et dans ses œuvres. En attendant, Madame Élisabeth reste discrète dans son éternité. Le livre refermé, on se retrouve possesseur du secret de la princesse. L'abandon à la volonté de Dieu, mais abandon nourri de méditation et de prière, mais un abandon actif, après avoir tout tenté humainement pour conjurer la victoire du mal. C'est de façon discrète, pudique, que le professeur de Vigry parle de la quête, de sa quête de ce secret. L'on comprend cependant tout son intérêt à le connaître pour en user personnellement le moment venu. Il indique ainsi à ses lecteurs le seul comportement valable alors que, comme au temps de la princesse, la nuit décidément s'épaissit autour de nous. Nous paraissons bien, en effet, être entrés dans le temps de la grande tribulation apocalyptique, comme l'ont si bien exposé les différentes conférences de la journée de l'action familiale et scolaire du samedi 6 novembre dernier. Pour ce très beau livre, sublime, tout le contraire d'une bluette, d'un ouvrage de dame, il faut louer hautement et remercier le professeur de Vigry en le saluant de l'épée et sans omettre de réciter à ses intentions la belle prière de l'ange de la famille royale, de l'ange du temple, Élisabeth, à ses intentions et aux nôtres, pour le temps notamment où il faudra faire preuve de l'admirable fidélité des Suisses lors de la journée du 10 août 1792. Merci de nous avoir écoutés avec patience. À une autre fois, qu'en attendant, nous garde la très sainte Vierge, reine de France, avec bien sûr l'assistance de l'angélique princesse, et hec ad majorem Dei gloriam.